Radio Kapi.
À Kinshasa et 19h dans la partie est de la RDC. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal Vespéral sur la fréquence de la paix. Dieudonné Nyangassa assure la mise en onde et à la présentation Jean Gandou. Bonne condition d'écoute. Le processus de paix de Doha est mis en marche dans son volet de libération des prisonniers. Le gouvernement congolais en a levé le temps avec 15 personnes remises à l'AFC M23 avec la facilitation du comité international de la Croix-Rouge. Papi Martial Moukeba nous en donne les détails dans quelques instants. Pendant que les acteurs politiques s'activent pour la paix, surtout dans la partie est du pays, un intrus s'improvise et sème la terreur partout où il s'est fait signaler et le monde conjugue les efforts pour le neutraliser. Il s'agit bel et bien de la maladie à virus Ebola qui attaque même le camp des déplacés. Pour les humanitaires, il faut freiner la transmission du virus tout en continuant à répondre aux besoins vitaux des familles déplacées. Joyce Masanka nous fera savoir ce qui en est. Ce journal sera bouclé avec l'invité qui n'est autre que Espoir Kikuni, auteur du manuel intitulé « Les premiers secours psychologiques et le soutien psychosocial en milieu scolaire face aux traumatismes vécus dans l'est de la RDC ». Au micro de Bernardin Nyangui, Espoir Kikuni, qui est de l'ONG Secours aux Vulnérables, nous en parlera plus en profondeur. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci de votre fidélité à la fréquence de la paix. Nouvelle édition au Nord Kivu, une première avancée dans la mise en œuvre de l'engagement sur la libération des détenus pris par le gouvernement congolais et l'AFC M23 dans le cadre du processus de paix de Doha. Le comité international de la Croix-Rouge a facilité la remise de 15 personnes libérées par les autorités congolaises à l'AFC M23. Le CICR est intervenu comme intermédiaire neutre entre les parties. Les détails avec Martial Moukeba.
Selon le CICR, les 15 personnes toutes volontaires pour participer à l'opération ont quitté Beni par convoi dans la soirée d'ici août. Après un transit par l'Ouganda, elles ont été remises le lendemain à l'AFC M23 dans les territoires d'Erutshuru. Cette remise constitue la première opération de ce type depuis l'engagement pris par les partis dans le cadre du processus de Doha sur la libération des prisonniers conclu à Montreux en Suisse le 17 avril 2026. Le CICR précise que l'opération a été menée avec les autorités sanitaires compétentes et dans le respect des mesures de prévention contre Ebola. L'organisation rappelle être intervenue exclusivement comme intermédiaire neutre pour faciliter les transports et la remise en sécurité des personnes libérées. Le CICR espère que cette opération ouvrira la voie à d'autres libérations prévues dans les engagements entre les parties. Au total, 311 personnes réclamées par l'AFC M23 et 166 détenus liés au gouvernement sont concernés par ces mécanismes de libération facilités par les CICR. Beni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Non loin du Nord Kivu, les habitants de Mambasa dans la province de l'Ituri se sont réveillés dans l'horreur avec cette nouvelle découverte macabre. Des corps de civils ont été retrouvés ce jeudi à Bandiboyo, une zone récemment touchée par les attaques attribuées aux rebelles de ZDF. Dans le même secteur, aux environs du village de Tetouri, des habitants parmi lesquels des enfants sont portés disparus après des enlèvements. La société civile s'inquiète de la multiplication de ces violences. Jean-Claude Lokidile.
Dans le territoire de Mambasa, la situation de sécurité reste préoccupante. Selon des acteurs de la société civile, plusieurs civils ont été enlevés ce dernier jour dans différentes localités touchées par les attaques attribuées au ADF. Aux environs de Tetouri, par exemple, au moins 8 personnes auraient été kidnappées dans un village situé à une quarantaine de minutes de ce centre de négoce. Leur sort pour l'instant reste inconnu. Ces violences provoquent de nouveaux déplacements de population. Des habitants fuient leur village pour rejoindre des zones qu'ils considèrent comme plus sûres, principalement le chef-lieu du territoire. La société civile affirmait que certains incidents et rumeurs de présence des ADF suffisent désormais à provoquer la panique parmi les populations. Autre fait rapporté par ces acteurs, la découverte de plusieurs corps dans le secteur de Bandimoyo, les victimes auraient été tuées lors d'une attaque attribuée aux ADF entre les 30 et les 31 juillet dernier. Les habitants retournés dans la zone après le déplacement de la population auraient découvert les dépouilles. La société civile appelle les autorités à renforcer la protection des civils face à la persistance des attaques et des enlèvements dans les territoires de Mambasa. Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Et cette nouvelle moins reluisante, les humanitaires en République démocratique du Congo s'inquiètent. Une nouvelle ligne vient d'être franchie dans l'avancée de la maladie à virus Ebola. Les Nations Unies alertent sur la présence de ces virus dans des sites déplacés où vivent déjà des milliers de familles déracinées. Les opérations de surveillance se multiplient pour contrer la propagation de ce visiteur indésirable. Le point avec Joyce Masanka.
Ebola frappe désormais là où les populations sont le plus vulnérables. Le camp des déplacés de guerre. Dans ces camps, de milliers de personnes cherchent refuge chaque jour. Mais aujourd'hui, une autre menace entre les tentes et les abris des fortunes. Ebola. Selon l'ONU, l'épidémie touche désormais certains sites accueillant des populations déplacées. Une évolution préoccupante alors que ces espaces sont souvent marqués par la surpopulation et un accès aux services de santé. Pour les humanitaires, le danger est double. Freiner la transmission du virus tout en continuant à répondre aux besoins vitaux des familles déplacées. Les opérations de surveillance et de sensibilisation ont été renforcées. Les équipes de terrain multiplient les efforts pour détecter rapidement les cas suspects et cassent le chaîne de transmission. Mais le temps joue contre la riposte. Les Nations Unies rappellent que, sans moyens supplémentaires et sans accès sécurisé aux populations, le risque de propagation demeure élevé. Au cœur d'une crise humanitaire déjà profonde, Ebola ajoute aujourd'hui une nouvelle épreuve pour de milliers de familles congolaises.
S'il y en a qui sont en détresse, à Kindu, dans le Maniema, les survivants des violences sexuelles voient quand même une lueur d'espoir. C'est notamment ceux qui sont à Salamabila. 1028 survivants des violences sexuelles de la zone de santé de Salamabila ont bénéficié gratuitement des soins de santé. Cette assistance s'inscrit dans le cadre du projet Assistance multisectorielle d'urgence en protection des survivants des violences sexuelles. Et ce projet est mis en œuvre par l'ONG Réseau des associations pour le développement communautaire avec l'appui financier de Arnaud de la Camara. Cependant, d'autres victimes pourraient ne pas bénéficier de cet accompagnement, les projets arrivant à son terme. Face à cette situation, le coordonnateur du RADEC lance un appel à l'implication d'autres partenaires afin que les survivants des violences sexuelles ne se sentent pas abandonnés. On écoute Jean-Claude Kayumba Chabani dans ce propos recueilli par Florence Kizalunga.
Nous sommes fixés plusieurs objectifs, entre autres, la réduction des cas de violences sexuelles dans la zone. Et nous avons dit qu'on va traiter ensemble avec le partenaire, on va traiter 800 survivants de violences sexuelles. Mais dans notre projet, nous sommes allés au-delà parce qu'on a traité 1028 survivants de violences sexuelles dans l'espace de 6 mois de notre projet. Et nous pouvons dire que pour le moment, on a besoin vraiment de faire la deuxième phase parce que les survivants continuent toujours à affluer ou soit à venir dans les structures sanitaires qu'on prenait en charge. Jusqu'à présent, c'est comme si la zone est restée vide après notre départ, parce que après le départ de MSF Espagne, donc c'est nous qui avons fait le mieux possible pour pérenniser les acquis laissés par les grands partenaires MSF. Et nous, comme on arrive à la fin, c'est une désolation vraiment, parce que nous sommes en train de dire aux partenaires humanitaires, même aux agences des Nations Unies, de venir en aide à cette population, ou soit aux survivants de violences sexuelles et basées sur les gens dans la zone de santé de Salamabila.
La promotion du leadership féminin et l'autonomisation des femmes au cœur de la rencontre entre autorités partenaires et acteurs de la promotion des droits des femmes à Kinshasa. C'était à l'occasion de la 4e édition de la Journée internationale de la femme africaine. Cérémonie qui est intervenue près d'une semaine après la date officielle. Et celle-ci était couronnée par la remise de brevets de reconnaissance à plusieurs femmes pionnières, parmi lesquelles des ministres, des chefs d'entreprise et des femmes leaders pour leur engagement et leur contribution au développement de la République démocratique du Congo. Le détail avec Nancia Tambo.
Cette rencontre a permis de mettre en avant les avancées réalisées et les défis à relever pour renforcer la participation des femmes dans les secteurs clés du pays. Dans son allocution, la première ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre les actions en faveur de l'autonomisation des femmes et de leur pleine participation au développement du pays.
Le gouvernement poursuivra son action afin de renforcer l'application effective des dispositions relatives à la parité de consolider des mécanismes institutionnels prévus par nos lois et d'améliorer l'accès des femmes aux responsabilités publiques. Il poursuivra également ses efforts en faveur de l'éducation des filles, de la formation professionnelle, de l'autonomisation économique, de l'égalité des chances et du développement du leadership féminin.
Prenant la parole, au nom des femmes distinguées, une pionnière a appelé les jeunes filles à croire à leur potentiel, à se former et à s'investir dans les sphères des décisions.
Le premier conseil que je donnerai à ces jeunes femmes-là, c'est d'être persévérantes, de croire en elles-mêmes, le lieu pour elles de se battre pour la concrétisation de cette parité que nous avons pu inscrire, nous les pionnières, dans la Constitution de la République.
La cérémonie s'est clôturée par la remise de brevets de reconnaissance aux femmes pionnières par la Première ministre.
En Bougimaï, par contre, le temps des vacances est mis à profit par la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bonzola pour faire apprendre un métier aux jeunes vacanciers parmi lesquels les jeunes filles. Conduite automobile, menuiserie, travaux domestiques et sensibilisation à l'hygiène menstruelle figurent parmi les activités organisées dans le cadre d'une colonie de vacances qui réunit depuis quelques jours une soixantaine de jeunes élèves dont cette fille. Cette initiative portée par un prêtre du diocèse de Mbujimaï vise à renforcer l'autonomie des adolescents et à développer leurs compétences pratiques. Des explications avec Esther Dalafina.
Devant un simulateur de conduite automobile installé au centre d'accueil du diocèse de Mbujimaï, plus de 20 jeunes garçons apprennent la conduite automobile. Joël Muntu, un adolescent de 15 ans, concentré, les mains crispées sur le volant, à ses côtés, un encadreur lui souffle des instructions.
Ici, là, je suis en train d'apprendre comment conduire une voiture, démarrer et avancer, comment diriger les volants.
Dans une autre cour, les filles inscrites suivent un programme adapté, mais au-delà des tâches domestiques, un module essentiel leur est consacré à la menstruation, l'éducation à la vie et plusieurs sujets longtemps considérés comme tabous dans les familles. Agnès Moussouamba a appris à torchonner correctement les carreaux d'une maison.
On a balayé, on a commencé à torchonner. On a fait avec le sabbat et l'eau.
Pour Abbé Simon Mandungo, prêtre initiateur, cette colonie de vacances répond à un besoin réel.
Ils apprennent la notion de la santé, de la prévention, de la sécurité, selon les domaines qui les intéressent.
Selon les encadreurs, cette colonie vise à offrir aux jeunes un espace d'apprentissage utile, loin des loisirs passifs, et à leur transmettre des compétences pratiques pour leur avenir. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Et à Kisangani, l'hospice des vieillards situé sur la 16e avenue dans le quartier du marché de la commune de Tchopo connaît une baisse significative du nombre de ses pensionnaires. Selon le responsable de l'établissement, sur les 55 personnes prises en charge en 2022, seules 13 y résident encore aujourd'hui pendant que les autres ont pris les larges. Cette diminution s'explique en grande partie par la vétusté du centre et par le manque de prise en charge adéquate, notamment sur le plan nutritionnel. Le chef de division chargé des hommes des vieillards souligne que ces conditions fragilisent davantage la survie et le bien-être des occupants. On écoute Gérard Lifeigna Bososila dans cet extrait choisi par Pepe Lissungi de la radio Bekom FM, station partenaire Radio Okapi.
Nous lançons un appel à tous les hommes de bonne volonté, à toutes les institutions, d'avoir une passe-pied à cette catégorie de personnes qui passent la vie dans des conditions difficiles. Voilà pourquoi ces bâtiments, conçus depuis 1950 ou 1955, nécessite normalement une réhabilitation totale. Je crois qu'à travers votre radio, vous pouvez lancer un message à tous les hommes de bonne volonté de venir en aide à l'hôpital de Via, à la division des hommes de Via, qui éprouve d'énormes difficultés pour l'accadement des personnes de troisième âge.
La population des Kananga pourra enfin voir les différents marchés inondés par les produits agricoles. Et pour cause, l'Office des voies des dessertes agricoles OVDA annonce avoir entretenu 268 km de routes des dessertes agricoles au cours du premier trimestre de 2026. Ces travaux ont été réalisés grâce au financement des fonds nationaux d'entretien routier FONER. Objectif, améliorer la mobilité des populations rurales et faciliter l'évacuation des produits agricoles vers le marché. Les territoires de Dibaya, de Dimbelenge, de Kazumba et Luisa, ainsi que l'interland de Kananga ont également bénéficié de ces travaux. Le point avec André Katende Ngalamouloumé.
Sur la route Kanyoka Kasasa, Gustave Kankonde enfourche chaque jour son vélo pour transporter ses récoltes. Pendant longtemps, cette route lui compliquait la vie. Aujourd'hui, il circulent plus facilement grâce aux travaux d'entretien réalisés par l'Office des voies des déserts agricoles. Cette route est entretenue, aujourd'hui nous pouvons bien passer, mais il y a un problème parce qu'elle commence à se dégrader. Nous invitons les autorités à assurer son entretien régulier. De nombreux agriculteurs du Kasaï central profitent des routes plus praticables. Les motos roulent avec moins de difficultés, le véhicule atteigne plus facilement le village. Les récoltes sont évacuées vers le marché sans beaucoup de difficultés. Pour préserver ces routes, l'Office des voies de dessertes agricoles indique avoir installé des comités locaux d'entretien sur chaque axe réhabilité. Leur mission est d'assurer un entretien régulier afin d'éviter de nouvelles dégradations. Kananga, André Katendengala Mulume, Radio Okapi.
Cap sur la capitale pour parler de cette bonne nouvelle. Les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée TVA ont augmenté d'environ 17% au cours des trois derniers mois. Le ministre des Finances l'a annoncé jeudi à Kinshasa à la clôture de trois jours de clinique fiscale consacrée à la facture normalisée. Doudou Fouamba attribue cette progression à la mise en œuvre de cette réforme qui vise à mieux tracer la TVA collectée et à lutter contre la fraude. Jocelyne Moussa Opondé nous en dit plus.
Cette progression des recettes intervient donc dans un contexte de mise en œuvre de la facture normalisée.
Nous sommes partis d'une moyenne de 280 à 290 milliards de francs à aujourd'hui 340 milliards. C'est très largement en dessous du potentiel que nous ciblons dans le cadre de cette réforme. Nous voulons arriver à doubler les niveaux de mobilisation des ressources de la TVA.
La facture normalisée, c'est une facture délivrée selon un modèle et des règles fixées par l'administration fiscale avec des éléments permettant d'identifier et de tracer la transaction et la TVA qui y est liée. Le gouvernement veut aussi faire du consommateur un acteur du contrôle. Une application doit prochainement lui permettre de vérifier si la facture issue est normalisée et si la TVA qu'il a payée a bien été enregistrée auprès du Trésor public. Les cliniques fiscales ont, elles, permis aux opérateurs économiques de soumettre leurs difficultés et de finaliser leur mise en conformité. Pour le gouvernement, cette phase d'accompagnement est désormais terminée.
Avec ces cliniques, nous venons siffler la fin des moratoires parce que nous en avons assez donné. La Direction générale des impôts a été instruite de procéder immédiatement à des sanctions ciblées pour des entreprises dont nous avons des informations sur les pratiques de fraude à la TVA.
Le gouvernement entend ainsi passer de l'accompagnement à l'application des mesures prévues par la loi.
Actualité internationale.
Soudan du Sud, les pays à la croisée des chemins, alerte l'ONU. À moins de 5 mois des premières élections prévues depuis l'indépendance, les Nations Unies dressent un constat alarmant. Les violences s'intensifient, la transition politique s'enlise et les conditions d'un scrutin crédible sont loin d'être réunies.
L'invité.
Les premiers secours psychologiques et le soutien psychosocial en milieu scolaire face au traumatisme vécu dans l'est de la RDC. C'est le titre du nouveau manuel publié par l'ONG Secours aux vulnérables destiné aux enseignants et aux éducateurs des écoles primaires et secondaires. Cet ouvrage est le fruit d'une campagne de soutien psychosocial menée depuis avril 2025 à Goma et dans les territoires voisins. Pour en parler, nous recevons Espoir Kikuni, coordonnateur de l'ONG Sève. Au micro de Bernardin Nyangui, il présente les objectifs et l'importance de ce guide pour les milieux scolaires.
Monsieur Espoir Moussagi, bonjour.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes.
Votre organisation Secours aux vulnérables venait de produire un ouvrage intitulé « Les premiers secours psychologiques et soutien psychosocial en milieu scolaire face au traumatisme vécu à l'est de la RDC ». Pourquoi avoir choisi ce titre?
Cette motivation est due à l'expérience que nous avions connue dans les différentes écoles dans lesquelles nous sommes passés pour mettre en place un programme de santé mentale en milieu scolaire. À la fin de ces programmes, nous avions compris qu'il y a un problème sérieux qu'il ne fallait pas prendre comme théorie, mais il fallait réunir toutes ces données, ces éléments, les réunir et en faire l'objet d'un ouvrage. C'est pourquoi nous avions proposé cet ouvrage qui commence par observer, écouter, orienter, dont le titre c'est les premiers secours psychologiques et soutien psychosocial et en milieu scolaire face au traumatisme à l'est de la République démocratique du Congo.
Vous dites que c'est un manuel de formation, donc vous avez réuni les éléments avec un objectif de formation.
Exactement.
Ciblant qui?
Nous ciblons des acteurs de l'éducation, notamment les enseignants, les conseillers d'orientation, les chefs d'établissement et d'autres partenaires de l'éducation. Et ce programme ici vise à former tous les acteurs de l'éducation amateur de premier secours psychologique et au soutien psychosocial pour lutter contre les traumatismes qui guettent les enfants au lieu de se concentrer à l'école.
C'est combien de chapitres?
À part l'introduction, les objectifs, dédicaces, nous avions réuni 8 chapitres, les tout premiers chapitres de premier secours psychologique. Quelles sont les 3 actions fondamentales de premier secours psychologique, comme c'est intitulé même à la page de garde? Observer, écouter, orienter. Dans ce chapitre aussi, on essaye un peu de parler des principes. C'est vrai, le monde humanitaire a ses principes, mais aussi la prise en charge psychologique a ses principes, parmi lesquels on peut parler de la confidentialité, de l'accueil, de la neutralité, l'impartialité, le respect, de la dignité humaine. Ce chapitre au moins se focalise sur ça. À part ce chapitre, on a proposé aussi le chapitre qui est lié à la santé mentale. On essaye un peu de montrer le cercle qui montre le bien-être mental des élèves, des enseignants et de la communauté, où nous commençons par l'individu. Si l'individu a un bien-être mental, on peut voir aussi sa famille restreinte, la famille élargie, la famille professionnelle et la communauté tout entière. Et là, ce chapitre essaye un peu de montrer quelles sont les situations qui peuvent plonger l'enfant en détresse ou qui ne pas être en bonne santé mentale. Troisième chapitre qui parle du traumatisme. Ce que c'est que les traumatismes, quels sont les types de traumatismes, c'est quoi la procédure à suivre pour essayer un peu de faire face, les étapes à suivre. Surtout dans ce livre, on a parlé de 12 étapes, parmi lesquelles on encourage l'élève à parler de son traumatisme, à demander de l'aide, à vivre avec les traumatismes, prendre soin de soi et d'autres étapes, comme je l'ai souligné. Mais aussi, on a fait allusion à la protection de l'enfant. On a essayé un peu surtout de souligner le point lié à la vulnérabilité. Quelles sont les conditions qu'il faut à ce qu'un enfant soit vulnérable? On a parlé aussi des violences basées sur le genre et les violences numériques. Ce sont des situations qui sont fréquentes dans les différentes écoles. Mais aussi, on a parlé d'un autre chapitre numéro 6, le leadership, qui permet une bonne communication entre les enseignants, le chef, les enseignants avec les élèves, et quel style de leadership que les communautés scolaires doivent adopter pour essayer un peu de permettre la bonne chance des élèves de grandir dans un lieu protecteur. On a proposé aussi un chapitre qui est lié au bien-être des intervenants. Vous savez, il y a des problèmes d'abord du personnel qui se déversent aux élèves, étant donné que les élèves ont leur charge, les enseignants aussi en ont le leur. Et le gros de ce chapitre, si on parle de staff care, il s'agit de prise en charge du personnel pour promouvoir le bien-être mental en milieu du travail. Et à part ça aussi, on a proposé quelques dispositifs de la prise en charge psychologique.
C'est un manuel de formation qui n'est pas encore publié. Oui. Est-ce qu'il y a des perspectives par rapport à ça?
Et ça, c'est le tout premier ouvrage, mais nous avons encore un projet de continuer aussi à produire d'autres ouvrages, mais surtout avec ça, nous voulons publier aussi ça. Que ça soit un ouvrage qui va aider du point de vue national, que ça soit un outil d'investir dans la protection de l'enfance du point de vue santé mentale en République démocratique du Congo.
Monsieur Espoir Moussagi, merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
C'est Bernardin Nyangui et son invité Espoir Kikuni qui clôture ce journal de vendredi soir, mis en onde par Dieudonné Nyangassa et présenté par Jean Gandou. Merci de l'avoir suivi et à plus.